Mais on va regarder dans sa mission divine ce matin, on va regarder différents aspects. Nous, on doit être comme Christ dans sa mission, puis on va regarder le pourquoi ensemble. Hier, on a une conférence sur les origines, un colloque sur les origines. Il y a un des conférenciers qui nous a fait remarquer que la parole de Dieu, Dieu a écrit, nous a donné ça, ça n'a pas été écrit à nous, mais pour nous. Alors, depuis hier, je réfléchis à ça, la différence qu'il y a entre « à nous » et « pour nous ». Quelle différence y a-t-il? En anglais, il a dit en anglais « to us », mais ça peut être écrit « to us », but « for us ». Quelle différence y a-t-il? Voyez-vous la différence? J'écris une lettre à mon frère. J'écris une lettre pour mon frère. Il y a une différence. C'est plus intime, OK? Donc, c'est plus personnel, c'est plus intime. Et je m'attends à, si j'envoie une lettre, une carte, je suis en France, j'envoie une carte à mon frère, qu'est-ce que je m'attends?
Qu'il la lise.
Qu'il la lise, that's it. Mais si j'envoie une carte pour mon frère, qu'est-ce que je m'attends?
Une responsabilité.
Une responsabilité de?
De sa part.
De?
Sa part à lui.
Sa part à lui.
Une
réponse.
Moi, je dirais un effet.
Un effet. Alors, responsabilité, effet, on commence à voir.
Hein?
Qui la considère, je m'attends à une.
Efficacité.
Mise en pratique.
Action mise en pratique. C'est pour lui. Hein? C'est pour lui qu'on écrit de fuir le monde. C'est pour lui qu'on écrit d'être dans le monde. On va voir ça ce matin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça la différence entre la parole de Dieu. Dieu a écrit ça, pas juste à nous, il l'a écrit pour nous. Ouais, la médecine qu'il y a là-dedans, OK, c'est pour toi, c'est pour moi. Les commandements qu'il y a là-dedans, c'est pour toi, c'est pour moi. Les changements de vie que le Seigneur nous demande, c'est pour toi, pour, pas à toi. Parce que si c'est à toi, tu le prends, tu mets une tablette. Comprenez? Mais si c'est pour toi, tu le mets en pratique. C'est ça la différence entre à toi, pour toi. Donc, comme Christ, c'est pour moi. Juste avant, on va regarder un verset. Et j'aimerais que quelqu'un me lise le verset Jean 17, verset 18.
Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde.
Donc, Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde. Et nous aussi, il nous envoie dans le monde. Alors, on va s'arrêter un petit peu dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde? Jean 17, qui va me lire le verset 11? N'importe qui, sinon je nomme des volontaires. Oui, chérie, vas-y.
Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi, je vais à toi.
Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. OK. Verset 14.
Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs.
Le monde les a haïs, continue.
Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Jésus n'est pas du monde et nous ne sommes pas du monde non plus. Verset 16.
Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Alors voyez-vous, on est envoyé dans le monde, mais on n'est pas du monde. Jésus est envoyé dans le monde par le Père, mais il n'est pas du monde. Et on va faire un petit peu le tour de toute cette question du monde, pas du monde, dans le monde. L'intérêt, c'est si Jésus n'est pas du monde, je voudrais expliquer qu'est-ce que ça veut dire être du monde. Jésus dit qu'il n'est pas du monde. Qui a envoyé Jésus dans le monde? OK, on va définir qu'est-ce que c'est que ne pas être du monde. Qu'est-ce que c'est ne pas être du monde? Ne pas être dans le système, ne pas fonctionner comme le monde. C'est tout bon ça. Oui, être une nouvelle créature dans le monde. Nous n'avons pas les pensées du monde. J'attendais le mot le péché. Le monde, c'est le péché. C'est ça qui est caractérisé par le monde. Le monde n'a pas de barrière, n'a pas de limite, n'a pas de principe de vie. Ils vivent comme le peuple d'Israël quand il est rentré dans la terre promise. Quel était, il faisait ce qui leur semblait bon. Et dans le monde, on fait ce qui nous semble bon. OK, dans le monde. Et ce qui nous semble bon n'est pas nécessairement bon. Chacun de nous ici, si nous nous laissons aller à nos passions, allons-nous faire ce qui est bon? Nous allons nous laisser aller à nos passions. Si je me laisse aller à si je me laisse aller à mes passions, je vais peser 100 livres de plus à la fin de l'année. Vous allez me dire, c'est pas trop grave. Mais c'est une passion quand même, hein? Hein? Si je me laisse aller en tant qu'homme à mes passions, je ne me serais jamais marié. Pourquoi? Ma femme va vous le dire, hein? Pourquoi si je me laissais aller à mes passions en tant qu'homme, que mâle, masculin, là, je ne me serais jamais marié? Pourquoi? Et je veux pas vous choquer par mes paroles, là, OK, tout le monde? Mais dans notre mauvaise nature pécheresse, pourquoi me contenter d'une femme dans le monde qu'on vit quand on peut en avoir plusieurs? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas du monde. Oui, Richard?
Ben, Dieu, à vrai dire, c'est une possession. Alors, on appartient au monde, on est du monde.
Jésus n'est pas du monde. Et pourquoi était-il dans le monde dans ce cas-là? On l'a lu parce que son Père l'a envoyé et parce qu'il est obéissant. Tout ça est important. Je vais vous lire des petites définitions que j'ai sur mes notes. Dans le monde, mêlé aux hommes, en relation avec eux, pour se faire voir et se faire connaître d'eux, et pour les ramener par là au Père. Donc, il veut les ramener au Père. C'est pour ça qu'il est dans le monde. Dans le monde, en lutte avec les puissances qui gouvernent le monde, pour apprendre l'obéissance, pour perfectionner et sanctifier ainsi la nature humaine. Mais il n'est pas du monde, mais il est du ciel, manifestant la vie qui se trouve en Dieu et que l'homme avait perdu pour la rapprocher de l'homme, pour la lui faire contempler et désirer. OK, il n'est pas du monde, témoignant contre le péché et contre tout ce qui sépare l'homme de Dieu. Il n'est pas du monde, fondant sur la terre un royaume d'origine toute divine. On va expliquer le pas du monde. Est-ce l'être humain est originalement du monde, à l'origine? Est-ce qu'il est du monde? Non. Il est d'origine divine. Okay? Il avait une relation avant la chute. Nous sommes créés par Dieu. Pourquoi? Nous avons été créés par Dieu. Adam et Ève ont été créés par Dieu. Pourquoi? Pour le glorifier. Très important, ça. Le glorifier, et Dieu voulait avoir une communion, une relation avec Adam et Ève. Il marchait avec Adam. Aujourd'hui, l'être humain marche tout seul. Et c'est cette relation que Jésus veut rétablir. Alors, tout ça pour nous expliquer que toutes ces caractéristiques-là, pas du monde et dans le monde, c'est valable pour chaque enfant de Dieu. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes envoyés dans le monde. Comme Christ, dans sa mission, nous sommes envoyés dans le monde. Maintenant, il ne faut pas confondre avec toutes les erreurs qui se sont glissées au travers des siècles. Qu'est-ce que c'était? Pas du monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle a été la compréhension de ne pas être du monde? Comment ils ont compris ça au travers des siècles, des millénaires passés? Certaines personnes sont devenues des ermites. Oui, ils se sont séparés du monde. De quelle manière ont-ils fait ça? Certains ont été dans les grottes, certains ont fait quoi? Certains sont devenus des moines et ils ont cessé de parler parce que la parole était péché, etc. Ils sont venus seuls, ça, et ils ont dit, je ne suis pas du monde. D'autres se sont mis en haut d'un poteau, en haut, tellement haut que c'est la vermine qui vivait sur eux autres. Ça, c'est l'histoire. D'autres sont allés dans des monastères, dans des cloîtres, etc., pour ne pas être du monde. C'était une mauvaise compréhension de ne pas être du monde. Qu'est-ce que ça voulait dire de ne pas être du monde? De ne pas appartenir au monde? Est-ce qu'on est en contact avec le monde?
Oui.
Hein? Sinon, Roger ne vendrait pas de châssis chez Vimat. OK? Donc, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être du monde? Ne pas vivre selon les valeurs du monde. Plus précis, ne pas pratiquer le péché du monde. C'est ça, ne pas être du monde. Ne pas pratiquer le péché du monde. Est-ce que nous sommes pécheurs? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre un pécheur et celui qui pratique le péché? Un qui est conscient, l'autre qui est... je suis très conscient. Tu te complais dans ton péché.
Vivre dans le péché, c'est... Tu le fais régulièrement, c'est une manière d'agir, c'est une manière d'être. C'est pas de tomber une fois de temps en temps. c'est de l'être. C'est la nature, notre nature est pécheresse.
Voilà. C'est ça que la parole de Dieu nous dit quand elle dit de ne pas pécher. Elle dit, je sais, vous le savez, que nous péchons, nous sommes des pécheurs. Nous avons besoin de demander pardon régulièrement pour notre péché. Mais entre pécher occasionnellement, même inconsciemment, et pécher régulièrement, avec volontairement, pratiquer le péché, il y a une différence, oui. Braver le mal, aimer le mal. Sodome et Gomorre n'ont pas été détruits à cause que c'était des pécheurs. Ils ont été détruits parce qu'ils pratiquaient le péché. Attention à demander pardon. Oui, oui, je suis 100% d'accord. La parole de Dieu nous dit clair que nous avons un avocat auprès du Père qui est prêt à nous pardonner de tous nos péchés. Est-ce que je peux dire, oui, mais je vais pratiquer le péché, mais le Seigneur va me pardonner? Parce que là où il y a eu multitude de péchés, la grâce a surabondé. Alors je m'appuie là-dessus. Est-ce que je peux dire ça? Je suis 100% d'accord avec vous qu'on ne peut pas dire ça. Pourquoi? On est conscient qu'on pêche. Quand on demande pardon, c'est parce qu'on a l'intention de lutter contre le péché. Et c'est ça la vie d'un chrétien dans le monde, c'est que nous luttons contre le péché. Je ne veux pas vous décourager, mais nous allons devoir lutter toute notre vie contre le péché. Parce que nous avons un corps de péché, un corps de mort, comme ça, comme Paul l'appelle. Nous avons toutes les tentations du monde. Et on n'a même pas besoin de Satan. C'est pour ça que Satan il peut se reposer et aller en vacances. On a tout ça autour de nous. Donc, la tentation est là, le péché est là, et nous devons lutter contre le péché. Et même, il y a des choses qu'on ne sait même pas que c'est un péché. Quand le Seigneur nous montre des péchés dans notre vie, il nous aide à avoir la victoire dans ce péché. Puis quand on a la victoire, qu'est-ce qu'il fait après? Et il nous montre un autre péché dans notre vie. Okay? C'est ça le combat, hein, la tentation et du péché. Dieu veut que nous vivions dans le monde. Pourquoi? Dieu veut que l'enfant de Dieu vive dans le monde pour être des lumières. Alors souvent, ça c'est une expression québécoise aussi, on n'est pas des lumières. Alors l'enfant de Dieu n'est pas une lumière éteinte. C'est toujours une lumière. Sauf que, elle est obscurcie, oui, on peut la mettre sous une chaudière, la mettre sous le lit, OK? Mais pourquoi? Pour qu'on soit des témoins de Jésus-Christ, mais pourquoi notre lumière, elle est sous le lit, elle est sous le boisseau, où on a baissé le gradateur? Oui, Geneviève. On a peur d'être jugé par les autres. Hein? On a peur de ceux qui sont pas en accord avec nous. On a peur, on appelle ça la peur des hommes, la crainte des hommes. Hein? On a peur de se faire niaiser. On a peur de se faire dire « t'es épais ». On a peur de se faire dire « tu crois encore à ça, toi ?» Pourtant, l'expérience m'a montré plusieurs fois, et je ne dis pas que j'ai pas encore la crainte des hommes, loin de moi de penser cela. Quand on a une conviction bien assise, tu es respecté. Pourquoi? Tu as une conviction bien assise. À condition que je respecte celui qui a une autre conviction bien assise. Et respecter l'autre qui a une autre conviction, quelle qu'il soit, ne veut pas dire que je lui présenterai pas une bonne nouvelle, ne veut pas dire que j'écouterai pas sa nouvelle, même si elle n'est pas bonne. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un respect mutuel. Faut montrer que nous ne sommes pas du monde et que la paix que Dieu nous donne, il n'y a que cette paix-là qui peut être donnée. La parole de Dieu nous le dit clairement. Et c'est ça que ça veut dire ne pas être du monde. Ça, c'est juste l'introduction. Alors, j'aimerais qu'on aille dans Jean 20 maintenant. Jean 20, 21.
Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Je ne puis rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Le Père m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face.
Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.
Quel est le, pour ceux qui ont tout entendu, là, quel est le point commun dans tous ces versets, et j'en avais une trolle et d'autres. Dieu le Père m'a envoyé, celui qui m'a envoyé. Et ça, il y en a plein, l'évangile de Jean. On aurait pu aller jusqu'au chapitre 20, trouver des « Le Père m'a envoyé ». Pourquoi est-ce que c'est répété si souvent par Jésus que le Père l'a envoyé? Mais pourquoi ça nous a été écrit pour nous? Plusieurs fois, je fais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Il veut que ça soit clair. Il n'est pas venu par sa propre volonté. Le Père l'a envoyé. Il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, il a plu au Père de faire mourir son fils. Écoutez, combien ont des enfants? Levez la main. S'il arrive quelque chose de grave, mon frère Eddie, et que ton fils doit mourir, mais que tu peux prendre sa place, qu'est-ce que tu vas faire? J'enverrai pas un des fils à la mort. Je vais y aller. Le verset est tellement important, il a plu au Père, pas juste d'envoyer son fils, il a plu au Père de faire mourir son fils. Qu'il prenne la substitution, c'est ça la croix, la substitution, à ta place, à ma place. Alors c'est pour ça que c'est important, Jésus dit, le Père m'a envoyé, et la suite après, il dit, je vous envoie dans le monde. Et c'est ça qu'on va développer, l'importance que Dieu l'a envoyé. Il savait que c'est son Père qui l'a envoyé, et il voulait que toi puis moi, on le sache aussi. Il voulait que les apôtres le sachent. Il voulait que les disciples le sachent. Il voulait que tout le monde le sache. La conviction d'avoir été envoyé par le Père était le grand mobile de tout ce qu'il faisait. Et il a dit, j'obéis à mon Père. L'obéissance est souvent mentionnée dans les quatre évangiles qu'il était obéissant à son Père. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres, ça? Jésus est obéissant à son Père. Il a été envoyé par son Père. Jésus nous envoie. On doit être obéissant. Qui n'a aucune difficulté avec l'obéissance? C'est pour ça que Jésus le répète souvent. Dans Luc 6, je pense 46, je ne m'en souviens plus, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, puis vous ne faites pas ce que je vous dis? » Ce qu'il dit en réalité, ça n'a pas d'allure. Puis après, il y a l'exemple où il parle de la maison construite sur le sable, la maison construite sur le roc, il dit, voilà celui qui écoute, il construit sur le roc. Voilà celui qui n'écoute pas, il construit facilement sur le sable. Les problèmes arrivent, qu'est-ce qui arrive? La maison construite sur le sable, ça s'en va, ça abomme. L'importance de l'obéissance. Donc ça fait partie. Maintenant, notre mission divine est une des plus belles parties de notre conformité avec Jésus. Il importe que les chrétiens se rendent compte qu'il a une mission à remplir sur cette terre, qui sache ce qu'elle est et comment elle peut s'accomplir. C'est intéressant que Dieu a choisi des êtres faibles comme toi puis moi pour être quoi? Ses ambassadeurs. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire témoin, ambassadeur? Qu'est-ce que ça veut dire ambassadeur? Représenter qui? Wow! Toi puis moi, tous les enfants de Dieu, nous représentons Jésus-Christ sur terre. Est-ce que nous sommes de bons ambassadeurs? Est-ce que je suis, est-ce que tu es un bon ambassadeur? Est-ce que lorsque mes voisins me voient vivre, te voient vivre, tes camarades de travail, camarades d'école te voient vivre, disent, hey, lui là, waouh, elle, c'est différent. Ou est-ce que je suis comme le chrétien qui s'en va travailler dans un pays extrêmement difficile, où les chrétiens, on leur coupe la tête, et quand il revient de son séjour et de son contrat 6 mois, on lui demande « Comment ça a été? Comment ça a été? » Pas de problème, ça a bien été. Personne ne l'a su. Est-ce que c'est comme ça qu'on est des ambassadeurs? Que je suis un ambassadeur? L'importance d'être un bon ambassadeur. Bon, je continue. Notre mission est semblable, vu qu'on parle de Christ dans sa mission divine, notre mission est semblable à la sienne par le but qu'elle se propose. Quel est le but de la mission de Jésus? OK, sauver le monde, de faire connaître le Père ici-bas. C'est tout vrai, ça. C'est vrai qu'il est venu pour sauver le monde, mais initialement, il est venu pour obéir au Père. Donc, nous sommes ici, nous, pour obéir au Fils, obéir au Père, obéir à Jésus. Et indirectement, lui, il est venu pour nous sauver en prenant notre place sur la croix. Nous sommes là pour proclamer une bonne nouvelle de Jésus. Il a pris ta place. Il y a Romains 8, 1 qui dit qu'il n'y a plus de condamnation maintenant quand tu mets ta confiance en Jésus. Romains chapitre 8, verset 1. Pour connaître son amour envers les pécheurs, sa volonté de les sauver, ça c'est la vision. Toute sa conduite, Jésus, toute sa vie témoignait de l'amour du Père. Donc, il vivait comme le Père. Donc, si je regarde ma vie, si tu regardes ta vie, toute ta conduite, toute ta vie témoigne de l'amour du Fils. Le Père a envoyé Jésus, Jésus nous envoie. Est-ce que toute ma conduite, toute ma vie, toute ta vie témoigne de l'amour que Jésus a eu pour moi, pour le monde autour de nous? C'est profond, ça. C'est extrêmement profond. C'est tout un test qu'on passe ou qu'on passe pas. Est-ce qu'on va le passer toujours? Non. Qu'est-ce qu'on fait?
Comment?
Michel, vas-y, t'as de bonnes rêves. On demande pardon, on se relève, puis on prend le combat. Que ça soit avec nos camarades de travail, que ça soit avec nos voisins. L'importance de vivre notre vie comme enfant de Dieu partout où on est va être difficile. Pensez que c'est plus difficile dans d'autres pays. Ici, le problème, c'est trop facile. On est craintif à cause de « Ah, mais des fois qu'ils vont me niaiser, qu'ils vont rire de moi. » Oui, mais on vit dans un monde laïque, on vit dans un... L'exemple que je donne souvent, vous savez, quand on est arrivé au Canada, en 1957, nous étions quatre. Dans la famille Guichard, quatre. Mon père n'a pas de famille, ou à peu près pas. Ma mère est fille unique, ses parents sont tous décédés, ma maman aussi maintenant. Maintenant, nous sommes au-dessus de 40 personnes dans la famille. Beaucoup de frères et sœurs dans l'Église disent « Vous êtes chanceux! » Il y a de la grâce qui a été répandue depuis qu'un camarade de travail à mon père, en France. Lui vivait tous les jours, même au point de dire, mon père, il m'écœurait tous les jours avec l'Évangile, il m'écœurait tous les jours avec son Dieu, avec Jésus. Alors, je dis pas qu'on doit écœurer le monde autour de nous, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais n'empêche que le Seigneur a commencé le travail dans le cœur de mon père, un athée, anti-religieux, anti-religion, pour différentes raisons. Il a commencé son travail là. L'importance du témoignage que nous avons. Petite parenthèse dans le travail, là. Nous sommes là pour travailler. Okay, ça, c'est important. Oui, on doit témoigner par notre conduite, mais je dois pas prendre ma Bible puis aller voir mon camarade de travail sur les heures du travail, là, puis commencer à lui prêcher l'Évangile. Je suis en train de pécher. Je vole du temps à mon patron. Il y a un temps pour chaque chose en son temps. La Bible haït le geek, pour employer le même langage que Nick. La parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu dit que la Bible haït le péché. Point. Elle aime au point que Christ est mort pour le pécheur. Quel qu'il soit, un gay ou toi ou moi, le péché reste le péché. Point. Mais Dieu aime le pécheur. Et c'est ça le message qu'il faut donner quand quelqu'un nous voit. La Bible haït, non, aime le pécheur. Depuis la Genèse jusqu'à la fin, à l'Apocalypse. Ça, c'est le message qu'il faut donner. Avec douceur, avec respect, etc., etc., avec nos patrons, tout ça, tu sais, faut voir ça. Mais je pense qu'il faut tenir ferme. Le Seigneur a dit à ses disciples, quand il a quitté, il dit, dernier chapitre de Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné où? Dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. » Et après, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les du Père et du Fils, Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, il renforce tout pouvoir. Après, il renforce, « Je suis avec vous autres. Qu'est-ce que vous avez à craindre? » Je dis, « Je suis là. » Est-ce que dans vos vies, vous avez expérimenté, j'aime pas employer le mot expérience, parce que l'expérience, on peut expérimenter toutes sortes d'affaires, là, que Jésus est avec vous. Reculez dans votre vie, dans le passé. J'en connais beaucoup ici, là, j'en connais plusieurs. Là. Combien le Seigneur vous a accompagné dans des temps extrêmement difficiles. L'a-t-il fait? Le Seigneur va prendre soin de nous autres jusqu'à notre mort, jusqu'à la fin. OK? Bon. Notre mission a la même origine que celle de Christ. Le Père qui a choisi Christ pour cette œuvre nous a aussi choisi, OK, pour l'œuvre que nous avons à accomplir. Est-ce que Jésus avait tout ce qu'il fallait pour accomplir l'œuvre qu'il a accomplie sur terre? Est-ce qu'il a été protégé tout le long, de la naissance jusqu'à la mort? Est-ce que la mort de Christ sur la croix était la plus terrible chose qui pouvait arriver? Non, c'était planifié. Est-ce que ça a été terrible pour Christ? Oui, pourquoi? Les paroles les plus dures sur la croix, c'est quand Jésus dit le contraire de tout ce qu'il a enseigné pendant toutes ces années avec ses disciples. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Tout le long, qu'est-ce qu'il a enseigné avec à ses disciples? « Moi et le Père, nous sommes un. » Et là, sur la croix, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Qu'est-ce qu'on entend, là? Il portait mes péchés, il portait tes péchés. Mais qu'est-ce qu'on entend quand il dit ça? Est-ce qu'on entend un Dieu qui va mourir, un Dieu défait? Qu'est-ce qu'on entend? N'oublions pas que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Demandez-moi pas de l'expliquer, là, mais c'est ça pareil. On entend un Jésus homme abandonné du Père, tout seul, en train de porter ton péché puis mon péché, de subir la condamnation du Père. La condamnation du Père tombe de Dieu, tombait sur lui.
Oui, divinement, humainement, il était là, mais divinement, il était plus là.
Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer vraiment. Une chose est certaine. Dieu en horreur le péché. Et la parole de Dieu nous dit clairement que Jésus est devenu péché, pas pécheur. Il est devenu péché pour nous. Pensez à toutes les horreurs qu'il y a dans votre vie. Mais pensons à toutes les horreurs qu'il y a dans nos vies. Christ les a portées sur lui. Là. Par amour pour toi et par amour pour moi, il est devenu péché, séparé du Père, parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Si Dieu n'était pas patient, la longanimité de Dieu, il y aurait longtemps que la terre y aurait rayé de la map l'être humain. Mais par amour, par patience, par grâce, même si on dit qu'on est sous la grâce maintenant depuis que Jésus est venu sur la terre, mais il y avait de la grâce en masse avant. OK, par grâce, Dieu attend, Dieu est patient. Par grâce, avec nos enfants, quand mes enfants étaient plus jeunes, on laisse couler certaines désobéissances, etc., parce que sinon, on serait toujours en train de les mettre en punition. La grâce. Mais Dieu, j'ai... Alors, Dieu, est-ce que Dieu a abandonné le Fils? C'est pas qu'il a abandonné le Fils, c'est qu'il ne pouvait pas voir le péché, parce que Dieu est saint, 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 il ne peut pas voir le péché. Mais la relation a été brisée au péché, au point que Adam et Ève en ont souffert. La nature humaine, toute l'humanité en a souffert. Même les animaux en souffrent, même la création en souffre à cause du péché, notre péché. Même, on le sait, nous souffrons nous-mêmes à cause de notre péché. Notre époux souffre à cause de notre péché. Nos enfants aussi, quand on élève des enfants, là, puis qu'on les voit là avec leurs péchés, leurs mauvaises habitudes, là, on voit qu'ils ont les mêmes péchés que nous. Tout ça, le péché est dans la nature humaine. Dieu nous aime. Bon, OK, notre mission est encore semblable à celle de Christ quant au subside, à tout ce que Dieu pourvoit pour nous accorder, pour la remplir. Le Seigneur ne nous demandera jamais rien sans qu'il nous accorde ce dont nous avons besoin pour l'accomplir. S'il m'envoie creuser des trous, il va me donner la pelle nécessaire pour creuser les trous. Bon, c'est simpliste ce que je dis là, mais il va nous donner les outils. Si nous n'avons pas les outils, quelles questions devons-nous nous poser? On n'est pas appelé à faire cette job-là. Savez-vous, en 1980, le Seigneur m'a dit, à moi, Dominique Guichard, d'aller travailler comme serviteur en formation à Mont-Laurier avec le pasteur Réal Goulet qui implantait une église. Et je ne mets pas de faute sur Réal Goulet, là, hein. Et là, j'en ai parlé avec ma femme, le Seigneur m'a dit. Elle m'a dit, écoute, ben, je ne veux pas y aller. Ça commence mal, mon affaire. Ça commençait mal. Je vais prendre le temps pour réellement qu'on comprenne la mission qu'on a et l'équipement que le Seigneur nous donne. J'en ai parlé avec le conseil des anciens. Je n'étais pas un ancien dans son an 80-81. Je n'étais pas un ancien. Je le parle avec le conseil. Tout le conseil unanime me dit, Dominique, c'est pas ta place. Là, j'en parle avec mes amis plus proches, Robert, Charpentier, des amis plus proches. Dom, c'est pas ta place. J'ai vendu ma maison, j'ai sacré mon camp à Mont-Laurier avec ma femme et je suis parti là-bas. On a eu un petit gars là-bas qui s'appelle Timothée, j'ai rien là. Trois mois après, je voulais revenir, c'était pas ma place. Ma femme m'a dit, tu t'es engagé pour un an, si toi tu pars, moi je reste ici. Quand je préférais coucher avec ma femme le soir que me retrouve à Montréal tout seul puis elle là-bas, si le Seigneur me parle, il va parler à ceux autour qui me conseillent. Et c'est ça qu'on voit dans les Actes des Apôtres, quand cela plut au Saint-Esprit et à l'Église. Il y a une conviction. Si le Seigneur parle à Paul, il va parler à Barnabas. Il va parler aux autres qui travaillent avec lui. Comprenez-vous? Même chose pour toi puis moi. L'importance que des conseillers autour de nous. Nous sommes une famille et si le Saint-Esprit me parle, il te parle aussi. Il ne te montrera pas ça dans un verset que tu vas lui faire dire ce que tu veux. Comprenez ce que je veux dire? La parole de Dieu a un contexte, a un message, elle me dit pas que je dois aller à Mont-Laurier. Comprenez? C'est très important, cela. Donc, si le Seigneur dit quelque chose, me veut quelque chose, il va m'équiper et il va encourager, il va dire aux frères et aux sœurs, oui, Dominique, c'est ta place. J'ai demandé pardon à ma femme, j'ai demandé pardon au conseil d'avoir manqué de respect envers le conseil et j'ai dit à ma femme, plus jamais je ne prendrai une décision tout seul. J'ai dit, le conseil de l'Église, et c'est la responsabilité des anciens, d'appeler, m'appellera. Et c'est ça qui est arrivé à 54 ans, il y a 12 ans maintenant. J'ai pas voulu rentrer dans le ministère à plein temps. J'allais quitter certaines responsabilités parce que j'allais acheter une compagnie avec mon frère. Puis le conseil m'a dit, non, on a besoin de toi, donc tu rentres à plein temps avec nous autres. Comprenez? Et le Seigneur nous a équipés durant toutes ces années-là, même si je suis quelqu'un... Puis vous pouvez demander à ma femme, qui a toujours fui les conflits, même les nôtres. Moi, je voulais être ailleurs, moi, OK? 2000 kilomètres quand on avait des différends. Même si j'avais horreur des conflits, durant tout ce temps-là, j'ai été dans un paquet de conflits. Et le Seigneur nous équipe pendant ce temps-là. On comprend pas ce qui se passe dans nos vies tant qu'on n'est pas arrivé au moment où le Seigneur nous veut à telle place. Donc, si vous vivez quelque chose de difficile en ce moment, c'est parce que le Seigneur est en train de vous équiper, vous humilier des fois, pour vous préparer pour être là. Et aujourd'hui, je gère des conflits longs comme le bras, problématiques, et je dois avouer au Seigneur, je sais réellement pas quoi faire là. Et quand on est dépendant, le Seigneur nous dit quoi faire, et il nous montre quoi faire. Frères et sœurs, je nous encourage à l'humilité. C'est un des traits de Jésus dans sa mission. L'humilité. Il donne gloire et honneur au Père. Nous donnons souvent gloire à nous autres. Hein. Moi, je pense que quand on est mis en relation avec quelqu'un, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où, et puis que cette personne-là écoute le message que nous lui donnons, que nous lui partageons, nous sommes la meilleure personne pour... L'évangéliser, oui, mais c'est... Disons qu'elle accepte, cette personne-là reconnaît son péché, demande pardon au Seigneur, puis l'accepte comme son sauveur. L'aider à grandir. C'est pas marqué « aller évangéliser, puis faites des conversions ». C'est pas marqué ça. C'est marqué « aller, faites des disciples ». La meilleure personne pour suivre cette personne-là, c'est toi. Jusqu'à temps que tu dises « écoute, ça sort de mes capacités ». Un exemple. J'ai rencontré une sœur, elle vient, je la rencontre ici, c'est une sœur. Après quelques visites, elle accepte Jésus-Christ comme son sauveur, je la rencontre une couple de fois, mais je ne suis pas la meilleure personne pour suivre une sœur. Donc, je la confie à une autre sœur. Et dans la prière, puis le Seigneur va pouvoir. Nous sommes tous responsables, tous, tout enfant de Dieu, de faire des disciples. Est-ce qu'il y en a qui sont mieux équipés que d'autres? Oui. Est-ce qu'il y en a qui vont être capables de faire des disciples jusqu'à la deuxième année? Vous comprenez ce que je veux dire, là? Maternelle, première, deuxième année? Oui. Il y en a qui vont être capables d'aller jusqu'au cégep. Il y en a d'autres qui sont en deuxième année, troisième année. Ils disent, écoute, je pense que tu devrais, je voudrais que tu puisses suivre avec quelqu'un d'autre. Et on le présente et on le fait avec lui pendant une couple de fois. Puis après, on le laisse entre les mains de quelqu'un d'autre. Ça, c'est faire des disciples. Okay? Le Seigneur a donné des dons différents. Nous sommes un corps. Écoute bien, tu ne te sers pas de ton orteil gauche pour te gratter les oreilles, c'est certain. Okay? C'est très simple. Ça va mieux avec le petit doigt. Okay? Bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est la même chose dans le corps de Christ. On a des dons, des talents différents. Et on a besoin de s'apprécier les uns les autres, de se soutenir les uns les autres et d'accepter quand quelqu'un vient nous dire, Dominique, t'es pas à ta place. Et je le fais souvent dans les églises, je le fais dans les conseils, je leur dis, quels sont vos dons? Et c'est intéressant, on va prendre Bernard comme exemple. Bernard, il parle de Richard, puis il se fait faire par écrit, ça. Puis Bernard, il dit que Richard, il a tel le don A, mais Richard, lui, il pense qu'il a le nom Z. Oups! Mais là, il y en a trois qui disent que Richard a le don A, mais il y a juste Richard qui dit qu'il a le don Z. Vous comprenez la problématique? Quel don, d'après vous, il a? C'est clair, OK? Donc, nous ne sommes pas toujours les meilleures personnes pour reconnaître les dons que nous avons. Donc, on doit humblement reconnaître ce que les frères, les sœurs disent autour de nous. Pourquoi? Parce que eux, ils voient, ils nous voient. Et nous, des fois, notre nature pécheresse fausse notre regard. Et on aimerait avoir tel don. Et moi, j'aimerais être John MacArthur. OK, il me reste 7 minutes. OK. OK, je vais vous dire les titres qui suivent après, là. Donc, notre mission a la même origine que celle de Christ. Il nous donne ce qu'on a besoin pour exercer la mission qu'il nous demande. Notre mission est semblable, en outre, à celle que Christ, par la consécration qu'elle exige. La consécration de Jésus, c'est jusqu'à la mort. Et une mort terrible. Non seulement, tout le monde dit, la mort de la croix, c'est atroce. Oui, c'est vrai. Je veux pas nier ça, là, OK? Mais c'est pas ça qui était terrible pour Jésus. La mort sur la croix, c'est quoi qui était terrible? Le péché sur ses épaules et la séparation du Père. 3 jours dans le tombeau. 3 jours, il a expérimenté la mort. Et la condamnation du péché en Adam et Ève, vous allez mourir. Et c'était une mort physique. Depuis Adam et Ève, on est tous morts. Les êtres humains, ils sont tous morts, à part quelques rares exceptions que Dieu est venu chercher. Mais la vie a cessé sur terre, pareil pour ceux-là. Mais la condamnation, c'est la mort spirituelle aussi, la séparation avec Dieu. Et Jésus a expérimenté et la mort physique et la mort spirituelle séparée avec Dieu. Donc, la consécration jusqu'à la mort. Si je vous pose la question, frères et sœurs, puis je veux pas de réponse, est-ce que vous êtes prêts de suivre Christ dans sa mission, comme Christ, jusqu'à la mort? Généralement, la réponse est oui. Okay. Tout le monde dit oui jusqu'à la mort. Deuxième question. Maintenant, je vais vous poser une question plus difficile. Êtes-vous prêts de vivre tous les jours pour Christ? Être consacré tous les jours pour Christ. Est-ce que je suis prêt de vivre une vie consacrée à Jésus tous les jours? Tous les jours là, sur ma télévision, tous les jours sur mon laptop, tous les jours dans ma vie de travail, tous les jours avec mes camarades de travail, tous les jours dans les luttes avec le péché dans ma vie, tous les jours. C'est un peu plus difficile. Facile de dire jusqu'à la mort. Nous sommes dans un pays où nous n'aurons pas, présentement, en tout cas, à mourir parce que je suis un chrétien. Oh, on va rire de moi. Mais écoute bien, je vais me coucher dans mon lit, soit je vais dormir. Donc, il y a une différence. Est-ce que je suis prêt à vivre une vie consacrée comme Jésus? Dernier point, la mission que Christ nous confie ici-bas est la seule raison de notre présence sur terre. Sans cela, retirerait de ce monde. Parce que nous n'appartenons pas au monde. Donc, si nous n'appartenons pas au monde, que Dieu ne nous confie pas, ou que Jésus ne nous confie pas une mission dans ce monde, pourquoi est-ce qu'on resterait dans le monde? Mais il nous a dit non, vous allez être mes ambassadeurs, c'est vous qui allez être mes témoins jusqu'à la fin du monde. Et ça fonctionne, hein? Même si moi je regarde ma propre vie puis que je dis des fois je fais dur, là, ça fonctionne. Pourquoi je peux dire que ça fonctionne? Que le chrétien est un témoin. Pourquoi est-ce que je peux dire que ça fonctionne? Oh, Michel. Ouais, OK, ça c'est personnel. Mais pourquoi à travers les siècles, les 2000 ans qui ont passé, pourquoi on peut dire que ça fonctionne? Parce qu'il y a des conversions à grandeur du monde. Parce que la parole de Dieu, la Bible, se propage à travers le monde. Et ça, depuis Adam et Ève. Il y a des gens qui adorent Dieu, il y a des gens qui se convertissent, et l'Évangile continue à faire son travail à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui témoignent. Il y en a qui obéissent et qui disent « Oui, je vais être un témoin de Jésus-Christ ». Pensez juste à cela, nous sommes 310 membres à peu près ici à l'église de Rosemont. Je ne parle pas de tout le monde, on est plus que ça. Si tout le monde décidait de venir un dimanche matin, personne ne travaille, on serait au-dessus de 500. Mais là, on est 310 membres. Si dans 5 ans, tout le monde conduit une âme à Christ, on sera 620, comptez cela. Oui, mais écoute, c'est pas facile de conduire une âme à Christ. Non, ça se fait comment? Ça se fait en priant. Premièrement, en priant parce que nous sommes faibles. Je suis faible. Je suis peureux. Je suis tout ça. Mais le Seigneur a dit qu'il va nous donner tout ce qui est nécessaire. Si je prie, qu'est-ce qu'il a dit? Il va répondre. Il dit, j'écoute, j'entends, je vais répondre. Oui, Michel. Le
Réconcil avait dit, il y a une grosse différence entre faire pour Dieu et faire avec Dieu.
Ah ben oui.
Si on prie avant que Dieu ouvre les opportunités, on va plus se faire avec Dieu et non pas juste de nos propres forces.
Alors, nous sommes dans la mission et Jésus s'attend que comme Christ, nous soyons obéissants et que nous soyons dépendants. Prions.